Bonjour à toutes et à tous. Je vois en tout cas que certains sont revenus de vacances. Ça fait plaisir de vous revoir. Le thème de cet après-midi entre dans le cadre d'une nouvelle série de prédications. Jusque-là, je n'ai pas insisté sur le thème de cette année. Est-ce que quelqu'un le connaîtrait ? Quel est le thème de cette année 2022 ? Alors, en principe, les diacres le savent, donc au moins rassurez-moi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Eh bien, le thème de cette année, c'est toujours prêt, au pluriel, parce que nous sommes plusieurs, toujours prêt à partager ou à défendre notre espérance. Je vous rappelle que l'année dernière, nous avons parcouru durant toute une année le thème de l'espérance au fil de la Bible, tout au long des pages de la Bible. Et puis là, cette année, dans le prolongement de ce thème, eh bien, nous sommes prêts, toujours prêts, à partager, à défendre notre espérance à qui nous demande des comptes sur notre foi. Et en début d'année, simplement pour que vous puissiez visualiser un petit peu le parcours que nous sommes en train de suivre, en début d'année, nous avons commencé avec l'étude de l'Épître aux Hébreux, aux Éphésiens plutôt. J'anticipe un peu sur d'autres projets. L'Épître aux Éphésiens. Et notamment sur cette idée que l'Église a une telle place dans le plan de Dieu. L'Église a une place tellement importante dans le cœur et dans le plan de Dieu. Nous avons ensuite brièvement, très brièvement, évoqué le rapport des chrétiens aux autorités politiques. Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités. Et c'est aussi de cette manière que nous témoignons auprès d'elles, en rendant à César ce qui est à César. Et à partir d'aujourd'hui et tout au long de ce mois de mai, nous allons parler des relations au sein de la famille nucléaire. Est-ce qu'une famille chrétienne est différente des autres familles ? Et la réponse est oui, d'après ce que la parole de Dieu nous enseigne. La famille chrétienne est différente des autres familles. Christ a changé notre vie. Et cela a des répercussions dans chaque sphère de notre vie. Et dans chaque sphère, nous voulons être prêts à partager notre espérance. Et cet après-midi, nous commençons par la relation entre les époux. Ça, je pense que vous l'avez compris par la lecture des textes. Et nous allons voir cela notamment à partir de deux textes. Ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens et ce que Pierre nous dit dans sa première épître. Et c'est donc avec ces deux apôtres de Jésus-Christ que je voudrais exhorter celles et ceux qui sont mariés parmi nous. Et quant aux célibataires, si vous songez au mariage un jour, il est alors utile pour vous de bien connaître la volonté de Dieu à ce sujet. Et vous saurez aussi dans quel sens prier pour vos frères et sœurs déjà engagés dans le mariage. Nous ne pensons pas toujours à cet aspect-là, mais combien les couples de l'Église ont besoin de prières de la part des autres, et notamment aussi de la part de nos frères et sœurs célibataires. Évidemment, il m'est impossible pour cet après-midi de parler de ce sujet en englobant toutes les situations spécifiques que nous vivons. Et j'espère en tout cas que ce que je dirai aujourd'hui trouvera un prolongement dans vos conversations entre vous, un prolongement au sein de vos couples, dans les discussions que vous pourrez avoir au sein du couple, un prolongement aussi dans les groupes fraîches et épiques. Et là, je lance l'idée. Lorsque Paul s'adresse aux épouses et aux maris, il le fait dans le prolongement de ce qu'il a écrit aux Éphésiens. Et je vous en rappelle le contexte. Dans une première partie, Paul rappelle aux chrétiens d'Éphèse tout ce que Dieu a fait pour eux. Il leur rappelle que c'est par la grâce qu'ils sont sauvés, qu'ils sont unis à Christ et qu'ils font partie d'un seul corps, l'Église, qui réunit juifs et non-juifs. C'est l'objet des trois premiers chapitres de cette lettre. Paul rappelle tout ce que Dieu a fait pour eux. Et dans la deuxième partie, eh bien, là où nous nous trouvons aussi, Paul passe à des considérations pratiques. Puisque Dieu leur a donné une nouvelle vie en Christ, ils doivent, en toute cohérence, vivre selon leur nouvelle identité. En tant que disciples de Christ, marchant dans la lumière, en étant remplis de l'Esprit. Et d'abord, j'aimerais m'adresser aux femmes dans cette salle, aux épouses plus particulièrement. Et je commence par les épouses parce que dans nos deux textes de référence, ce sont aux femmes que les apôtres s'adressent d'abord. Alors, il était assez courant de trouver dans la littérature de l'époque, donc en dehors de la Bible, il était courant donc de trouver dans cette littérature de l'époque des recommandations pour la vie familiale. Ce n'était pas quelque chose de nouveau ou que nous trouvons de nouveau dans la Bible. Mais ce que nous retrouvons d'inédit dans les lettres du Nouveau Testament, c'est justement la perspective chrétienne. Ce que n'offre pas, évidemment, le reste de la littérature. Et les spécialistes ont appelé ce genre de texte les tables domestiques ou bien le code domestique. Regardons d'abord l'exhortation principale. Et pour cela, je voudrais juste relire les trois premiers versets de notre texte dans Éphésiens. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Par égard pour le Seigneur, et parce que c'est d'abord à Christ que chaque femme se soumet, eh bien l'appel ici, c'est que chaque épouse chrétienne se soumette à son mari. Et parler à notre époque de la soumission pour l'attitude de la femme, c'est quasiment tendre le bâton pour se faire battre. Le verbe « se soumettre » passe très mal à notre époque. Tant il a accumulé de connotations péjoratives. Tant il y a eu d'abus à cause d'une mauvaise application de ce verbe. Tant les violences à l'égard des femmes ne cessent de nous révolter aujourd'hui. Alors comment peut-on dire, à partir de ce texte, aux femmes qu'elles doivent se soumettre à leur mari ? Comment dire cela au XXIe siècle ? Pour l'anecdote, et j'ai l'autorisation de ma femme pour ça, Damaris a beaucoup de mal avec cette notion. Elle m'en parle ouvertement. Elle sait que c'est biblique. Elle sait que c'est ce que demande le Seigneur. Mais combien c'est difficile dans notre culture, dans notre époque, de concevoir cela, qu'une femme accepte de se soumettre à son mari. Donc vous voyez que j'ai un exemple très proche de moi. Et je sais que sans doute, certaines sœurs aussi se posent cette question-là. Combien, au fond, c'est difficile. Pourtant, la parole de Dieu n'est pas en tort dans tout ça. Dans tout ce que j'ai évoqué concernant les abus, concernant les violences faites aux femmes, la parole de Dieu n'est pas en tort. Le péché, par contre, a vraiment tout déformé, a vraiment tout brisé. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Mais la parole de Dieu n'y est pour rien. Et Dieu n'y est pour rien. Et si je vous dis cet après-midi que dans la Bible, l'appel à se soumettre n'a rien de dévalorisant, rien de dégradant. Et j'en veux pour preuve que ce verbe est employé dans différents contextes. Et que finalement, tous, hommes et femmes, nous sommes concernés par ce qui suit. Par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous, » donc c'est ce verbe-là, « soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême. » Toujours dans le même chapitre, verset 18, « Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec toute la crainte qui lui est due, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. » Toujours dans la lettre de Pierre, et effectivement, il emploie beaucoup ce verbe, Au chapitre 5, « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. » Dans la lettre de Jacques, au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, » et donc là, ça concerne tous les chrétiens, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, nous sommes tous plus ou moins concernés par cette exhortation de se soumettre à quelqu'un dans ce monde. Je pensais aussi à cet exemple. Ben, si un contrôleur de la RATP vous arrête et vous demande de présenter votre titre de transport, vous vous soumettez, vous obéissez. Donc, la soumission, nous connaissons tous. Et voilà un dernier exemple au sujet de Dieu le Fils. 1 Corinthiens 15, verset 28. « Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Le Fils lui-même se soumettra. Dans ces exemples que j'ai cités, nous remarquons que la notion de soumission n'est pas synonyme d'inégalité. Nous sommes bien appelés à nous soumettre à nos semblables, avec qui nous sommes égaux en dignité, même s'ils ont la responsabilité du pouvoir. Et Christ aussi se soumettra à son Père, et il l'a déjà fait aussi bien avant, et pour autant, il n'est pas inférieur au Père. Donc la notion de soumission n'est pas une question d'inégalité. Dans la Bible, la soumission est et doit être un acte volontaire. La personne qui se soumet agit ainsi parce qu'elle reconnaît l'autorité de l'autre, parce qu'elle reconnaît l'autorité des dirigeants du pays, parce qu'elle reconnaît l'autorité des responsables d'église, parce qu'elle reconnaît l'autorité de Dieu lui-même. La soumission est donc un acte volontaire de la part de la personne qui veut se soumettre. Et lorsque Dieu nous demande de nous soumettre, ce n'est sûrement pas pour nous dévaloriser, mais bien plutôt pour nous faire reconnaître l'ordre qu'il a établi pour la vie en société, pour la vie en église ou bien pour la vie en famille. Dieu a établi un ordre. Eh bien, revenons à cette exhortation principale pour les épouses. Soumettez-vous à votre mari. Et Paul en donne la raison. Dieu a fait de l'homme le chef de sa femme. Dans sa sagesse, Dieu a établi cet ordre au sein du couple. Le mari reçoit donc une responsabilité particulière qu'il ne partage pas avec sa femme, celle d'être le leader, le chef de la famille. Et encore une fois, cela ne prouve pas qu'il ait une dignité supérieure par rapport à son épouse. Mais Dieu a jugé bon de distribuer des rôles différents à l'un et à l'autre. Et l'ordre établi au sein du couple demeure le même, quel que soit le contexte, quelle que soit la culture dans laquelle nous vivons. L'ordre établi dans le couple reste le même à travers le temps. Et cet ordre qui existe dans le couple, vous le remarquez ici, est comparé à l'ordre qui existe dans la relation entre Christ et l'Église. Et ça, vous êtes bien d'accord avec moi que cet ordre-là, on ne peut pas le bouleverser. La relation entre Christ et l'Église suit aussi un ordre. Le mari est chef de sa femme comme Christ est chef de son Église. Donc, l'épouse qui se soumet à son mari agit ainsi avant tout par égard pour le Seigneur, parce qu'elle sait que cela plaît au Seigneur. D'une manière totalement volontaire, d'une manière totalement réfléchie. Et la soumission chrétienne ne signifie pas pour l'épouse qu'elle doit faire tout ce que son mari demande, sans discernement. Si le mari incite sa femme à pécher, elle n'a pas à le suivre dans sa folie. Sa soumission au Seigneur est toujours première. Donc si le mari a envie d'inciter sa femme à pécher, la femme, bien qu'elle accepte ce rôle de se soumettre, eh bien, n'a pas à suivre son mari dans sa folie, parce qu'elle obéit d'abord à Dieu. Et c'est le même principe que nous appliquons aussi par rapport aux autorités. Et dans ce cas, au contraire, elle devrait plutôt reprendre son mari, qui s'égare avec amour. Et inversement, quelle joie pour le mari d'avoir une épouse qui l'encourage dans son rôle de leader, qui lui fait confiance, qui prie pour lui afin qu'il assume bien le rôle que Dieu lui a confié. Et il est totalement approprié que l'épouse fasse part à son mari de ses idées, qu'elle prenne des initiatives, qu'elle donne des conseils, qu'elle participe à l'éducation des enfants avec l'autorité qui revient aux parents. Et en évoquant cela, nous ne sommes pas si loin du portrait de la femme de valeur en Proverbe 31. Une femme active qui prend des initiatives. Et cela n'est pas incompatible avec l'idée qu'elle soit soumise à son mari. En agissant ainsi, elle ne reconnaît pas moins l'autorité de son mari. Et face aux décisions difficiles, ce sera à lui de trancher. Face aux décisions difficiles, ce sera à lui de donner le dernier mot, en vertu de sa responsabilité. Ce sera à lui d'assumer aussi les conséquences de la manière dont il dirige sa famille. Pensons à prier pour les maris de notre Église, afin qu'ils soient des leaders sages. La deuxième exhortation que j'adresse aux épouses, c'est adopter une conduite qui rend un bon témoignage. Adopter une conduite qui rend un bon témoignage. Si le mari n'est pas chrétien, et je sais que quelques sœurs dans notre assemblée sont concernées par cette situation, si le mari n'est pas chrétien, qu'en est-il de cette soumission chrétienne? Dans quel sens faut-il alors se soumettre? Eh bien, l'apôtre Pierre envisage ce cas. Et dans sa lettre, il veut encourager les chrétiens à vivre leur foi malgré l'hostilité du monde à l'égard de Christ. Pierre veut encourager les chrétiens à vivre leur foi, à rendre témoignage malgré l'hostilité du monde à l'égard de Christ. Et dans les rapports avec les autres, il s'agit pour tous ou pour certains de se soumettre. Et comme nous l'avons vu, Pierre emploie plusieurs fois ce verbe dans différentes situations. Et à son époque, il n'était sans doute pas rare qu'une femme vienne à la foi en Christ après son mariage, sans que ce soit le cas pour son mari. Or, dans la culture ambiante, les femmes devaient suivre leur mari sur le plan religieux. Et nous avons là une tension que devaient vivre bien des chrétiennes à cette époque. Cette tension entre la pression de devoir suivre son mari sur le plan religieux et la nouvelle foi qu'elle découvre et qui est pourtant totalement et diamétralement opposée. Et Paul et Pierre n'enseigne pas autre chose que Paul concernant la soumission. Verset 1, « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. » Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Si la responsabilité du mari d'exercer correctement son leadership est grande, celle de la femme qui apprend à se soumettre à son mari, notamment s'il n'est pas croyant, est tout aussi importante. Il en va du témoignage chrétien. Si la femme est la seule chrétienne de sa famille, elle est appelée à être exemplaire par sa conduite empreinte de respect. Ainsi peut-elle espérer que son mari, d'abord récalcitrant au message de l'Évangile, eh bien, devienne beaucoup moins récalcitrant en voyant comment sa femme se comporte. D'abord, d'une manière générale, en menant une vie pure, c'est-à-dire sans compromis avec le péché. Et ensuite, en faisant preuve de respect à l'égard de son mari, car c'est ce que demande le Seigneur dans la relation de couple. Et je m'adresse particulièrement aux sœurs dont le mari n'est pas croyant. Ne sous-estimez pas la force de votre témoignage en acte. Et je m'appuie juste sur ce texte pour dire cela. Ne sous-estimez pas la force de votre témoignage en acte, par votre conduite, au quotidien. Bien sûr, cela n'exclut pas le fait de lui parler de l'Évangile. Mais ce que votre mari va observer, c'est la manière dont vous vous comportez au quotidien. Et si le Seigneur le veut, il saura utiliser votre conduite pour que votre mari soit gagné au Christ. C'est dire combien le rôle de l'épouse dans le couple a son importance, selon la définition de Dieu. C'est dire combien ce que Dieu demande aux épouses chrétiennes n'est pas à prendre à la légère. Leur soumission offre un témoignage sans pareil. La dernière exhortation que je voudrais adresser aux épouses, c'est soigner votre parure intérieure. Que votre parure, écrit Pierre, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. L'apôtre Pierre ne veut sûrement pas dire que l'aspect extérieur n'a aucune importance. Mais que plus important que cela, la parure intérieure, comme il l'appelle, est ce qui a du prix aux yeux de Dieu. Un esprit doux et paisible. Tout le contraire du portrait que nous trouvons parfois dans l'Ancien Testament, le portrait de la femme querelleuse, la femme qui cherche à se disputer. Eh bien, c'est bien la dernière chose dont un mari a besoin. Chères sœurs, tout en cultivant votre beauté intérieure, comptez sur le fait que seul Dieu peut vous accorder un esprit doux et tranquille. Parce que seul Dieu peut changer votre cœur. Et d'après Galates 5, versets 22 et 23, c'est l'Esprit Saint, qui produit la paix et la douceur. Cela ne peut pas venir d'ailleurs, et sûrement pas de nous-mêmes. Cela vient de Dieu. Et ce que Dieu demande ici, d'avoir un esprit doux et paisible, cela ne peut que être possible en comptant sur lui, sur ce que lui peut faire en vous. Et si la femme prend tellement de soin à travailler sur son cœur et sur sa conduite, c'est avant tout parce qu'elle veut plaire au Seigneur. Et je le redis encore. Et en cela, elle ne fait que s'inscrire dans la lignée des croyantes qui l'ont précédée, en particulier Sarah. Si nous lisons les versets 5 et 6, c'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient d'autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et une fois de plus, voyez dans ces versets le lien qui existe entre leur foi, elles qui espéraient en Dieu, et leur soumission à leur mari. Nous ne pouvons pas déconnecter les deux. Et Pierre souligne que suivre l'exemple de Sarah, c'est faire ce qui est bien. chères sœurs, que ce dernier élément vous convainc, si ce n'est déjà fait, que Dieu n'attend pas moins de vous. Recherchez cette parure intérieure que Pierre décrit, un esprit doux et paisible. Et je vois Yoxas hocher la tête vis-à-vis de sa femme. Ne dissocions pas le lien qu'il y a entre la foi en Dieu et la soumission à son mari. Les deux vont ensemble. Alors, j'ai dit beaucoup de choses concernant les épouses, mais maintenant, il faut parler des maris. Nous avons déjà évoqué que Dieu a établi le mari comme chef de sa femme, comme celui qui a l'autorité. Ce qui ne veut pas dire que la femme n'a aucune autorité, si nous pensons à son rôle dans l'éducation des enfants. Et c'est vrai qu'avec une telle affirmation de dire que le mari est le chef de sa femme, eh bien il serait facile de glisser vers un comportement autoritaire. Imaginez le mari qui fait la loi à la maison et qui peut-être inspire la terreur. Mais l'apôtre Paul nous dresse un tout autre portrait, celui du mari aimant. Et c'est la première exhortation. Et je vais m'inclure dans ces exhortations, puisque je suis moi-même un mari. Aimons notre épouse, comme Christ a aimé l'Église. Verset 25, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Oui, le Seigneur demande à l'homme d'aimer sa femme comme lui, Christ, a aimé l'Église. La barre est infiniment haute. Paul nous rappelle comment Christ a aimé l'Église. Il est allé jusqu'à mourir pour elle. Jusqu'à mourir pour nous. Et au lieu de recevoir le châtiment que nous méritions pour nos fautes, nous avons reçu la vie que nous ne méritions pas. Parce que Christ, par amour pour nous, a volontairement pris notre place pour être puni une fois pour toutes. C'est ainsi que Christ nous a aimés, qu'il a aimé son Église. Et c'est sur ce modèle-là, d'amour suprême, que les maris chrétiens doivent construire le leur. Et c'est tellement exigeant. Un amour qui se donne, un amour où le mari est prêt à se sacrifier pour le bien de sa femme. Et devrais-je dire un amour où le mari est prêt à donner sa vie, littéralement, si la situation l'exigeait, pour sa femme. Nous lisons aussi que Christ a donné sa vie pour que l'Église devienne rayonnante de beauté, pour qu'elle soit un jour irréprochable, parfaite, de telle sorte qu'elle puisse se tenir devant son époux sans avoir à rougir. Chers frères, ayons le souci que notre épouse soit prête pour ce jour, comme d'ailleurs nous devons nous y préparer, ce jour où l'Église sera parfaite. Ayons le souci qu'elle grandisse dans sa relation personnelle avec le Seigneur, qu'elle grandisse en sainteté. Faisons de sa santé spirituelle un sujet de prière régulier. Et dans le domaine de la piété, prenons l'initiative quand il s'agit de prier ensemble, quand il s'agit de lire la Bible ensemble, cette parole qui nous a purifiés. Prenons l'initiative et également soyons un encouragement, un exemple de foi pour notre femme. Bien sûr, il arrive que ce soit elle qui nous encourage. Mais ne perdons pas de vue que notre rôle de leader concerne aussi notre foi commune. Deuxième exhortation, prenons soin de notre épouse comme le Seigneur le fait pour l'Église. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Le parallèle avec la relation entre Christ et l'Église continue. Et que signifie pour un mari chrétien d'aimer sa femme comme le Seigneur le lui demande? C'est finalement l'aimer comme lui-même. Voilà un commandement que nous connaissons bien. Aime ton prochain comme toi-même. Et cela implique une attention particulière à l'égard des besoins de l'autre. Cela implique de prendre soin de l'autre. Chers frères, Dieu nous confie notre épouse pour que nous l'entourions de soins, de petites attentions, tout comme nous cherchons à prendre soin de nous-mêmes. Et par-dessus tout, inspirons-nous de Christ qui prend toujours bien soin de l'Église. Christ prend toujours bien soin de l'Église qui est de manière imagée son corps. Est-ce que vous vous rendez compte que si le Seigneur s'occupe si bien de nous, c'est parce que nous sommes les membres de son corps? C'est pour cela qu'il s'occupe de nous si bien, tout comme nous prenons soin de notre propre corps. Parce que nous sommes les membres de son corps, il prend soin de nous de la même manière. Et puisque nous avons reçu une telle grâce, frères, aimons notre femme de la même manière. Voyons ce que nous pouvons faire pour la soulager quand elle est complètement débordée par tout ce qu'elle a à faire. Exprime-t-elle le besoin de passer plus de temps avec nous? Consacrons-lui ce temps pour l'écouter, pour discuter ensemble, pour nous amuser ensemble. Et cela inclut les relations sexuelles. Nous savons en général ce dont notre corps a besoin. Mais pour ce qui est de notre épouse, il faut justement faire un effort particulier pour connaître ses besoins. Et l'une des meilleures façons de savoir, de connaître ses besoins, c'est de lui demander directement. Dernière exhortation pour les maris, témoignons de l'estime à notre épouse qui est co-héritière. Et là, je me tourne du côté du texte de Pierre. L'apôtre Pierre interpelle aussi les maris. Et voici ce qu'il précise. « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Il nous faut prendre soin de notre épouse, oui, et aussi faire preuve de compréhension ou de discernement. La vie commune exige que nous cherchions à comprendre l'autre, à discerner ses besoins, à connaître ses forces et ses faiblesses. Et quand Pierre évoque la nature plus délicate des femmes, il fait sans doute d'abord référence au fait qu'elles soient physiquement moins fortes que les hommes. Et peut-être que cette expression englobe aussi l'idée d'une plus grande sensibilité émotionnelle. Et cela reste un propos général. J'ai bien conscience qu'il y a des exceptions et qu'il existe des hommes plus faibles physiquement et plus sensibles que certaines femmes. En plus de faire preuve de compréhension, le mari est exhorté ici à témoigner de l'estime pour son épouse. Marie, avez-vous de l'estime pour votre épouse? Et la raison est la suivante. Elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Notre épouse, qui a confié sa vie au Seigneur, partage avec nous la même foi et la même espérance. Elle aussi est enfant de Dieu et précieuse à ses yeux. Elle aussi a reçu la même grâce que nous, le même don de la vie éternelle. Alors montrons-lui qu'elle a de la valeur parce qu'elle appartient au Seigneur. Rappelons-lui, quand c'est nécessaire, son identité en Christ. Elle a de la valeur puisqu'elle a été rachetée à grand prix. Et tout cela suppose, frères, cela suppose de bannir de notre vocabulaire tout ce qui pourrait rabaisser notre épouse. De bannir de notre vocabulaire tout ce qui pourrait la décourager. Tout ce qui pourrait ternir l'estime qu'elle a d'elle-même. Témoignez de l'estime pour votre épouse. Et voici l'enjeu d'une telle attitude. Rien ne fera obstacle à vos prières. Si nous agissons ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Alors nous pouvons hésiter sur le sens que Pierre veut dire quand il évoque vos prières. Est-ce qu'il s'agit de nos prières en tant que mari, ou bien s'agit-il de nos prières en tant que couple ? Dans tous les cas, si nous manquons d'amour ou d'estime à l'égard de notre épouse, cela affecte d'une manière ou d'une autre notre vie de prière. Et dans le domaine de la piété, je l'ai déjà dit, le mari ne doit pas manquer d'être un exemple et un leader. Vous êtes toujours avec moi ? Voici donc les exhortations pratiques pour les épouses et pour les maris de notre assemblée. Ce sont autant de sujets de prière, parce qu'aucun d'entre nous n'est à la hauteur de son rôle dans le couple. Et nous ne pouvons que demander à Dieu d'être une meilleure épouse ou un meilleur mari. Et ce n'est qu'avec l'aide de Dieu, grâce à son œuvre en nous, que peu à peu, se soumettre à son mari et aimer son épouse comme soi-même deviennent des impératifs qui font sens dans notre vie de couple. Mais en fait, je ne voudrais pas m'arrêter là. Parce que le mariage chrétien oriente notre regard vers une réalité plus grande, vers une relation qui est plus glorieuse, celle qui unit Christ et l'Église. Et comme le dit l'apôtre Paul, le mystère est grand, non pas dans le sens que nous ne pouvons rien y comprendre, mais dans le sens que ce qui était voilé dans l'Ancien Testament est devenu lumineux pour nous. Le mystère est grand. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, regardez ce passage encore. Je vais me concentrer sur le verset 31, que nous connaissons bien. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Ce verset de Genèse 2, 24, qui est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous rappelle que le mariage entre un homme et une femme vient de Dieu. Ça, il n'y a pas de doute. C'est sa volonté qu'il en soit ainsi. Et ce verset, comme vous le voyez, Paul le cite dans le texte d'Éphésiens pour commenter la relation entre Christ et l'Église. Comme si finalement, et là peut-être qu'il faut s'accrocher un petit peu, comme si finalement l'accomplissement ultime de ce verset se trouve dans l'union entre Christ et l'Église. Oui, ce verset parle de mariage entre un homme et une femme, mais ultimement, dans le plan de Dieu, ce verset se réalise par l'union entre Christ et son Église. Pour le dire encore autrement, le mariage chrétien existe pour refléter cette réalité. Et ça nous bouleverse totalement de penser ainsi. Le mariage chrétien, ou d'ailleurs, même s'il n'est pas chrétien, existe pour refléter une réalité qui est bien plus magnifique et qui dépasse le cadre de notre couple. L'union entre Christ et son Église. Et plus nous comprenons cette vérité, plus nous aurons envie de suivre les exhortations bibliques que nous avons vues cet après-midi. Par notre mariage, nous voulons montrer pas seulement combien nous nous aimons l'un et l'autre, mais combien Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Et combien l'Église est prête, à cause de cet amour, à se soumettre joyeusement à son Seigneur. Au bout du compte, il n'y a qu'un seul mariage parfait. C'est cette union entre Christ et l'Église. L'Église qui sera un jour sans tache ni ride, juste parfaite pour lui. Et mariés ou célibataires dans cette vie, nous serons là pour assister à ce jour glorieux où Christ et son Église seront enfin réunis, où l'Église sera parfaite pour lui. Amen.